Événement de la semaine à Dijon. Alors, on aurait pu dire à l'Opéra de Dijon, mais en fait, c'est au théâtre que ça va se passer avec un opéra complètement inconnu. Son titre, La Finta Pazza. Et un compositeur dont le nom ne nous dit pas grand chose, c'est Sacrati, Francesco Sacrati. C'est dire qu'il fallait bien un découvreur pour nous faire apprécier cette œuvre-là. Et ce découvreur, eh bien, c'est vous, Leonardo Garcia Alarcón. Vous êtes en résidence à l'Opéra de Dijon maintenant depuis un moment. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré vers cet opéra-là, donné pour la première fois à Venise en 1641?
Alors, c'est un mythe dans l'histoire de la musique, un tabou même. Beaucoup de personnes ne savaient pas où se trouvait la partition, aucun enregistrement, aucune création de cette pièce. Et bien évidemment, j'ai reçu un très très beau cadeau d'un musicologue qui m'a offert la partition manuscrite de cette œuvre, et je l'ai proposé à l'Opéra de Dijon, comme mon ensemble Capella Mediterranea et moi-même, on est en résidence à l'Opéra de Dijon. Je me suis dit, j'aimerais convaincre le directeur Laurent Joyeux de l'Opéra de Dijon pour créer cette pièce qui est tellement importante pour l'histoire de la musique française, parce qu'il s'agit du premier opéra joué en France quand Louis XIV avait 7 ans, et même il a assisté à la représentation. Alors, c'est une grande émotion pour nous. Vous pouvez imaginer à quel point aujourd'hui on est en train de ressusciter une pièce de laquelle simplement on parlait, d'avoir lu simplement dans les livres d'histoire de la musique. Et le premier opéra représenté en France, c'est La Finta Pazza, un des plus grands succès de l'opéra italienne à cette époque, avec le grand Francesco Sacrati qui a écrit beaucoup d'opéras autour de Claudio Monteverdi et de Francesco Cavalli à Venise, mais toutes sont perdues aujourd'hui. C'est simplement cela. On n'a plus aucune partition conservée ou retrouvée. On sait que c'était des grands succès à Venise, mais aujourd'hui, la seule chose qu'on connaît, c'est La Finta Pazza. Et c'est pour cela qu'on est très excité de redécouvrir cette pièce.
On avait le livret et il a fallu attendre 1983 pour avoir enfin une partition.
Exactement. Il y a eu un musicologue italien qui a trouvé cette partition. Moi, je ne connais pas ces musicologues. C'est à travers un autre musicologue français que j'ai reçu la partition. Et bien évidemment, à ce moment-là, Capella Mediterranea et moi-même, on a fait notre propre édition critique pour pouvoir la donner. Ici, je ne sais pas de quelle bibliothèque cela vient, alors le mystère continue.
Là, vous n'avez pas dû réécrire la fin de l'opéra tout de même, Leonardo Garcia Alarcón.
Pas du tout, c'est pas comme El Prometeo. Dans ces cas, tout existe, tout absolument. Toutes vraiment les trois actes qui sont formidables. Et vous savez, le livret, il est très coquin du début à la fin. C'est vraiment une délice d'humour, de comique, du tragique, d'absolument tout mélangé comme les Vénitiens aimaient bien.
Alors l'histoire était assez particulière, on va pas s'arrêter, on va surtout parler musique bien sûr avec vous, mais enfin c'est l'histoire d'un oracle qui annonce à Thétis que son fils, donc Achille, va périr au combat, c'est la prise de Troie, donc elle décide de le travestir en fille, de le mener aux filles du roi, seulement voilà, le garçon reste un garçon, donc il tombe amoureux d'une princesse à qui il fait un enfant, et l'histoire part de là.
Exactement, et là commence l'histoire parce que... Et sa femme veut partir en guerre avec lui, c'est-à-dire Déidamie, elle veut partir avec Achille à Troie, mais lui non. Il l'oublie, il lui dit même pas adieu. Ses pulsions sont guerrières et pas amoureuses. Mais alors elle s'est fait passer par folle pour commencer à dire beaucoup de vérités. D'abord à son père, et plus tard à un ex-amant, et plus tard à toutes les personnes de la cour. Et vous imaginez qu'à cette époque, le rôle de la femme n'était pas ce qui est aujourd'hui. C'est-à-dire que cette pièce, d'une certaine façon, permet à une femme de dire tout ce qu'elle pense et tout ce qu'elle ressent en se faire passer par une folle. Alors, il y a des scènes, bien sûr, très sensuelles et érotiques, parce que elle fait tout ce qui est dans ses fantasmes. Alors vous pouvez imaginer que pour Jean-Yves Ruff qui met en scène cette pièce, c'est un cadeau, c'est livré, parce que vraiment il n'y a pas un moment où la scène tombe, il n'y a pas un moment où il y a une action qui nous amène à vouloir connaître de quoi il s'agit cette histoire.
Revenons à la musique de Leonardo Garcia Alarcón. Qu'est-ce qui en fait le côté, je dirais presque extraordinaire à vous lire, puisque on pourra même pas l'écouter aujourd'hui, il faudra attendre d'aller au théâtre de Dijon puisqu'elle n'a jamais été enregistrée.
Alors, vraiment, ce qui est incroyable, c'est que quand on écoute, par exemple, la musique de Monteverdi, l'Incoronazione di Poppea, par exemple, ou le Retour d'Ulysse, on entend des échos tout le temps de la musique de Sacrati, tout le temps, à chaque moment. Et c'est vrai que beaucoup de musicologues avaient dit que l'Incoronazione di Poppea, l'Incoronazione di Poppea, a été écrit à trois, par Francesco Cavalli, Claudio Monteverdi et Francesco Sacrati. Mais comme on ne connaissait aucune pièce de Sacrati, on ne pouvait pas dire quels extraits de Poppea pouvait être de lui. Mais par exemple, la pièce la plus connue de l'Incoronazione di Poppea, qui est pour Timiro, le grand duo final entre Néron et Poppée, c'est bien sûr de Sacrati. Aujourd'hui, on peut le dire.
Il vous faut beaucoup d'instrumentistes.
En fait, à l'époque, il fallait quatre ou six pour une question de que l'opéra devait être rentable. Vous voyez, l'opéra venait de naître à Venise en 1637, et dès qu'on crée des théâtres qui sont simplement tenus par un librettiste ou un compositeur, on doit avoir un petit orchestre, sinon c'est la ruine. Bien sûr que quand Claudio Monteverdi a eu la possibilité d'avoir tout cela, il a eu 35 musiciens. Quand Cavalli est allé, un Vénitien est allé à Paris pour le mariage de Louis XIV, il a eu une soixantaine de musiciens. Nous, on est à la moitié, c'est-à-dire on est à 14. Simplement, beaucoup de couleurs, des flûtes, des cornets, du violon. Quand même, on est un orchestre petit. Et avec une belle basse continue, avec deux luttes, orgue, deux clavecins, harpe, basson. Toutes les couleurs sont représentées. C'est ça qui est formidable, même si on reste quand même petit.
Et un certain nombre de solistes.
C'est une pièce qui est tout autour de cette Dei Damia, mais il y a aussi beaucoup de dieux qui arrivent de tous les côtés. Bien sûr, Jupiter, qui parle toujours des astuces des femmes, de la manière de contrôler les hommes. Et d'une manière assez machiste, on dirait aujourd'hui, mais sa femme arrive avec la plus grande jalousie, Giunone. C'est-à-dire qu'on a aussi des scènes de dieux assez fortes à l'intérieur de la pièce, et pas seulement l'histoire et autour de Deidamia et Achille. Mais vraiment, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est à quel point à Venise, en 1640, on pouvait traiter un sujet avec une liberté pareille. C'est quelque chose qui, même aujourd'hui, pour dans certains pays, quelques parties du texte seraient interdites. Alors, à Venise, vraiment, on avait, à la République de Venise, on avait une liberté qu'à Rome, par exemple, avec la papauté, on ne pouvait pas avoir à cette époque.
Est-ce à dire que pour représenter cet opéra, alors plusieurs représentations au cours de la semaine, on va y revenir à la fin, le dialogue entre le metteur en scène, et donc Jean-Yves Ruff, et le musicien, donc vous, a été particulièrement dense?
Oui, parce que c'est... comme si on se transporte, on voyage à l'époque, c'est le travail entre les librettistes et les compositeurs qui porte fruit. Alors c'est exactement ce qu'on est en train de vivre ici. Discuter avec lui, c'est absolument essentiel pour que je puisse savoir de quelle manière diriger la pièce. Je peux aller d'un côté ou de l'autre pour souligner une intention théâtrale. Et c'est cela qui nous intéresse et qui nous enrichit d'un travail de ce type.
La Finta Pazza, à partir de ce mardi, alors il y a quatre représentations, mardi, jeudi, vendredi, c'est à 20h, le dimanche, le 10 février, c'est à 15h, alors on appelle l'Opéra de Dijon, mais j'insiste bien, c'est au théâtre que ça se passe, et pour en savoir plus, ou réserver, pourquoi pas, le 03 80 48 82 82.